Le livre du prophète Malachie, nous lirons à partir du chapitre 3, le verset 16. Malachie, chapitre 3, nous commencerons à partir du verset 16 jusqu'à la fin de ce livre. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Seigneur, c'est avec beaucoup de respect, en même temps d'amour pour toi et pour ta parole, que nous nous tenons à tes pieds en cet instant. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix et nous te prions de tout notre cœur que ton esprit puisse nous conduire dans la méditation de ta parole. Seigneur, merci parce que les uns et les autres, nous savons que tu nous aimes. Quel réconfort! Quelle grâce, quel bonheur d'avoir un Dieu tel que toi, qui veille sur nos vies et qui ne désire qu'une seule chose, c'est que nous puissions, à ce jour bienheureux où tu viendras nous chercher, être avec toi pour l'éternité. Merci pour mes frères et sœurs qui ont reçu ta parole dans leur cœur. Merci aussi, Seigneur, de nous aider chaque jour à vivre selon ton conseil. Nous comptons sur toi et nous te rendons grâce ensemble au travers du nom précieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai commencé la lecture de la Bible ce matin dans ce chapitre 3 du prophète Malachie à partir du verset 16 parce que à mon sens, il y a une suite logique entre ces derniers versets qui se trouvent dans le chapitre 3 et ce que nous avons lu ensemble au chapitre 4. Effectivement, nous savons tous que les chapitres, les versets sont l'œuvre des hommes, mais l'Esprit de Dieu, lui, a donné une pensée générale et qui est très importante, et donc nous pouvons dire ce matin, sans crainte de nous tromper, que les séparations que quelquefois les hommes ont fait, eh bien, ne correspondent pas toujours à ce que l'Esprit de Dieu a voulu enseigner, a voulu nous révéler. Et je vais commencer par dire ce matin que l'histoire de l'homme qui est présentée dans la Bible est présentée d'une façon qui est linéaire et non pas cyclique. Je veux dire par là qu'il y a eu un commencement qui se trouve dans le livre de la Genèse, la création de l'univers, et Dieu est à l'origine de cela, et cette création tend à une apogée. Mais à l'heure actuelle, nous voyons une chose qui est évidente pour chacun d'entre nous, j'en suis persuadé, c'est que le péché est très abondant, l'injustice également règne, l'inégalité parmi les hommes, mais le point final vient au grand jour du jugement. Et ce que nous avons remarqué en faisant cette lecture ensemble, c'est que Dieu prépare un jour qui est appelé le jour de l'Éternel. Et ce jour vient. Cela doit nous servir aux uns et aux autres d'avertissement pour que nous ne nous laissions pas aller, comme dans notre génération, nous voyons que les hommes et les femmes deviennent de plus en plus indifférents par rapport à ce qui est essentiel et surtout par rapport à la parole de Dieu, mais que nous puissions faire des progrès dans notre amour et notre attachement au Seigneur. Certainement, vous avez remarqué que dans les premiers versets que nous avons lus ce matin, il est dit que l'Éternel est attentif aux paroles qui sont prononcées par ceux qui craignent son nom, par ceux qui l'aiment vraiment de tout leur cœur et qui honorent son nom. Et l'Éternel annonce alors quelque chose qui est bienfaisant pour nos âmes. Il dit « Ceux-là seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Donc, nous voyons au travers de ce texte-là que nous devons demander au Seigneur la grâce de ne pas sombrer dans le conformisme, de ne pas sombrer dans une habitude religieuse, de ne pas sombrer dans une routine qui finalement peut être accomplie sans que notre cœur déborde d'amour et d'affection pour le Dieu qui est l'auteur de notre salut et en qui nous avons reçu les uns et les autres la vie éternelle. Alors, je voudrais attirer votre attention particulièrement sur cette expression qui met en relief que le soleil de justice va se lever et ce jour-là, qui est appelé le jour de l'Éternel, eh bien, nous pousse les uns et les autres à réfléchir afin que notre amour aille en augmentant. Alors, je me suis posé cette question. Quand le soleil de justice va se lever, alors il y a deux choses qui peuvent se produire. Et cela est évident dans le texte. D'une part, il y a ce qui va arriver à ceux qui ne craignent pas le nom de l'Éternel. Et par ailleurs, il y a certaines choses qui constituent une source de joie pour ceux qui lui appartiennent. Alors, je vais essayer de faire une comparaison, car au travers de certaines analogies, certaines vérités bibliques paraissent plus claires pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, je me souviens qu'un certain prédicateur un homme de Dieu remarquable que vous connaissez certainement pour avoir entendu parler de lui. Je veux parler de Spurgeon. Disait un sermon sans image, sans analogie et semblable à une maison sans fenêtre. Et il faut parfois que nous puissions assimiler certaines vérités bibliques par le moyen de comparaisons. Alors, permettez-moi cette image. Vous avez tous connu des périodes, notamment dans cette région, je crois que c'est souvent le cas, où il n'y a absolument pas de pluie qui tombe pendant plusieurs jours. Et vous savez, quand le soleil darde ses rayons pendant plusieurs jours et que le terrain devient aride, l'herbe sèche, elle devient jaune et que toutes sortes de brindilles de bois tombent des arbres et sont prêtes à être enflammées, il suffit parfois qu'un rayon de soleil traverse un petit morceau de verre qui a été oublié quelque part pour que le feu se déclenche et le chaume prend feu et puis c'est un véritable désastre. Mais quelques kilomètres peut-être plus loin, alors il y a une autre image qui peut se présenter à nous. Voici que se trouvent dans une étable des veaux qui sont là depuis pas mal de mois. Ils ont passé une certaine période parce que le propriétaire de ces veaux a pensé que c'était nécessaire qu'ils restent enfermés dans l'étable. Et puis, à un moment donné, le propriétaire, comme il voit que le soleil brille, eh bien, va ouvrir l'étable et va lâcher ses veaux. Et nous le voyons au travers de l'Écriture, que va-t-il se passer? Ces veaux vont se précipiter, alors qu'ils étaient en souffrance dans l'étable, ils vont se précipiter dans les champs, bondissant de joie, ils vont sauter, et nous pouvons tous imaginer cette scène particulière. Eh bien, c'est ce que Dieu veut mettre en relief ici, d'autant plus qu'il dit le chaume, eh bien, ce sont les méchants, ce sont les hautains, ce sont les présomptueux, ce sont ceux qui oublient Dieu, ce sont ceux qui ne le glorifient pas. Et au jour que l'Éternel prépare, eh bien, là, la justice va s'exercer et ils connaîtront un sort terrible. Je voudrais mettre en relief ceci. Il est dit qu'il ne laissera pas de racines ni de branches. Ça veut dire que cette condamnation, ce jugement de Dieu est implacable, sans retour. Vous voyez, il peut y avoir quelquefois certains incendies qui causent des ravages. Et il y a cette végétation qui semble disparaître, mais les racines de certains arbres qui sont profondément enfoncées dans la terre donnent la possibilité encore à quelques-uns de reprendre vie. Mais là, Dieu est formel et il dit il ne laissera ni racines ni branches. C'est une condamnation, un jugement implacable, sans retour, sans aucune autre possibilité de recommencer une certaine expérience avec Dieu. Par contre, eh bien, il y a l'autre image qui concerne précisément tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui, pendant un temps, ont été dans la peine, dans la souffrance, en contemplant l'injustice. Il peut y avoir parmi nous des frères et des sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont peut-être aussi, eh bien, je dirais, les victimes de certaines actions coupables. Et ces personnes peuvent avoir dans leur cœur, eh bien, cette pensée, mais jusqu'à quand Dieu tardera-t-il à nous faire justice? Jusqu'à quand y aura-t-il une démonstration de puissance de la part de Dieu afin que nous soyons vengés? Écoutez bien, mes frères et sœurs, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu n'oublie absolument rien et qu'au jour du jugement, ce que nous pensons être, eh bien, quelque chose qui est injuste, la balance de la justice sera rétablie et notre Dieu mettra en évidence ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. J'ai remarqué ce matin qu'il y avait une certaine direction de l'esprit, autant au travers des chants que nous avons pu interpréter, des paroles prononcées par notre frère, que par une certaine pensée spirituelle qui a été délivrée parmi nous. Et cette pensée va dans le sens que nous ne devons pas servir Dieu ni du bout des lèvres, ni avec un cœur indifférent, mais que nous devons être libérés de toute forme de religiosité pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et un culte qui est agréable à Dieu, eh bien, ne peut être offert que par un cœur qui aime sans réserve, qui est dans une affection totale pour le Seigneur et pour notre Dieu. Car je crois que le Seigneur a horreur des cœurs qui sont partagés. Nous avons entendu ce rappel de l'Écriture au travers de cette pensée spirituelle délivrée ce matin. Il peut y avoir des fois des personnes qui, en apparence, eh bien, servent Dieu, ou même des fois qui présentent une bonne disposition de cœur, mais c'est juste une apparence. Comme cet enfant qui dit à son père, « Oui, papa, je vais faire ce que tu me demandes. » Et puis qui ne le fait pas, qui ne l'accomplit pas. Puis à côté, il y a celui qui a une apparence, je dirais, d'indifférence, ou plutôt de révolte contre le père, et qui dit au commandement de son père ou à l'ordre de son père, « Non, je ne le ferai pas. » Mais le cœur, lui, est plus fort. Et finalement, comme il a cet attachement pour le Père, cet amour pour le Père, il va obéir et faire la volonté de Dieu. Alors, ce texte-là nous place devant une certaine responsabilité que nous avons les uns et les autres. Nous savons que le jour ardent de la colère de Dieu, qui sera comme une fournaise, s'approche. Alors, nous avons besoin de prendre en considération ce que le Seigneur nous demande de réaliser quand précisément il nous avertit de cette manière-là. Et il y a deux choses que Dieu a dit à ce peuple de Juda. Parce qu'en fait, le texte que nous avons sous nos yeux est d'abord adressé à ce peuple de Juda, à ce peuple donc d'Israël. Et pour préparer le chemin du Seigneur, le retour du Seigneur, eh bien, il lui dit ceci, « Souvenez-vous de la loi de Moïse. » Puis la deuxième chose qu'il dit, c'est « Voici, je vous enverrai Élie. » Alors nous allons essayer de considérer ces deux points-là. Moïse et la loi, et puis d'autre part, Élie, le prophète, qui vient pour préparer le retour du Seigneur, ou le chemin du Seigneur. Alors, voyons ce que l'Écriture dit à ce sujet-là. D'abord, Dieu dit, souviens-toi des préceptes, des ordonnances que j'ai prescrits à Horeb pour tout Israël et que j'ai communiquées à Moïse. Et puis là, d'un seul coup, eh bien, on est obligé de s'arrêter, de réfléchir un instant. La loi de Dieu, oui, elle est importante. Mais la loi de Dieu, elle ne sauve personne. Et si nous devions justement dire, mais si Dieu nous demande de prêter attention à la loi de Moïse, est-ce que cela ne va pas dans le sens inverse de ce que le Nouveau Testament a mis en relief, notamment au travers de l'épître de Paul aux Galates, quand il pose la question « Pourquoi la loi ?» Et il parle aux Galates qui se sont laissés entraîner dans le légalisme. Et il leur dit « Mais ne savez-vous pas que la loi, elle ne peut pas sauver ?» Parce que la loi n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi qui sauve. Mais évidemment, nous avons besoin de prêter attention à la loi. Pourquoi ? Parce que la loi, elle met en relief ce qu'est le péché. S'il n'y avait pas eu la loi, eh bien, nous n'aurions pas pu définir exactement ce qu'est le péché. Mais de connaître la loi ne nous sauve pas. Parce que la loi ne peut pas nous arracher au pouvoir du péché. Mais la loi, elle nous place devant notre incapacité. Elle nous rend profondément malheureux. Elle révèle ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai entendu quelqu'un ce matin prier dans ce sens et dire « La parole de Dieu est un miroir qui nous révèle l'état de notre âme et de notre cœur. Et quand je plonge mes regards dans la loi, bien je découvre tout ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Et même si je m'en défends, eh bien tous les commandements de la loi sont là pour me mettre dans cette terrible position où je ne peux connaître que la tristesse, la peine, parce que je sais ce que je suis. Et l'apôtre Paul lui-même disait dans son épître aux Romains, je sais ce qu'est la loi de Dieu, je sais ce qui est bon, mais je n'ai pas le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il va crier vers Dieu. Et il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse vient, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, quand nous nous tournons vers Christ qui, lui, a payé finalement, c'est lui qui a accompli parfaitement la loi à notre place. Plusieurs frères et sœurs, souvent je les entends, comme au travers de moments semblables, dire, je te rends grâce Seigneur pour le tout accompli. Le tout accompli, c'est quoi? C'est Christ qui a accompli parfaitement la loi à notre place, qui s'est chargé de nos péchés, qui a payé un prix afin que nous nous soyons arrachés à la condamnation éternelle. Alors oui, je dois me souvenir de la loi qui, elle, me condamne, mais qui m'amène à Christ. Et quand je porte mes regards sur Christ, alors la peine est changée en joie. Parce que je sais que mes fardeaux sont enlevés, qu'il a payé pour moi. Et là, alors, devant l'amour de Dieu, que me reste-t-il à faire? Souvent, nous avons utilisé cette expression, en tous les cas, ça m'est arrivé aussi de l'utiliser. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Et en fait, c'est ça qui est formidable. Ça veut dire que si aujourd'hui je peux aimer le Seigneur, c'est parce que lui m'a aimé le premier et que par son esprit, il déverse cet amour pour lui. S'il n'y a pas cette action de l'esprit, c'est impossible. Mais quand mes yeux se tournent vers Christ et que l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, alors en moi il place l'amour pour le Seigneur. Et l'amour du Seigneur va avec cette crainte respectueuse. On ne désire qu'une seule chose, c'est lui obéir, nous soumettre à sa volonté et marcher selon son conseil. Et puis, je vous ai dit, non seulement le prophète a présenté Moïse au peuple d'Israël, mais il a aussi parlé d'Élie. Mais l'évangile vient précisément nous rappeler quelque chose. C'est pas moi, mais c'est Jésus lui-même qui, lorsqu'il est venu ici-bas pour accomplir l'œuvre salvatrice que nous connaissons et que nous venons de mettre en relief, a dit, mais Élie, il est déjà venu. Et il est venu au travers de quelle personne? Au travers de la personne de Jean-Baptiste. Mais vous savez, quand on lit les livres prophétiques, il faut savoir qu'il y a des accomplissements, je dirais, historiques, qui sont immédiats parfois. Et puis, il y a une parole qui concerne aussi la fin. Il y a des choses qui sont réalisées dans l'histoire de l'humanité, et puis il y a d'autres choses qui concernent le temps de la fin. Effectivement, il y a eu Jean-Baptiste, et comme l'Écriture le dit, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. En fait, quand Jésus est venu la première fois, eh bien, déjà à ce moment-là, je dirais que le jour du jugement, eh bien, était déjà perceptible pour tous. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé. » Et donc, c'est une chose qui est certaine. Le Seigneur, en venant ici-bas sur la terre, a déjà commencé ce travail. Évidemment, nous savons que c'est pas fini. Il nous a sauvés, mais il doit revenir. Et effectivement, il y aura aussi ce travail qui sera fait de préparation par Élie qui va venir. Cependant, là, nous, ce que nous devons retenir, c'est que la parole prophétique doit nous servir à préparer nos cœurs pour le jour où il va venir et commencer son jugement. Car, mes frères et sœurs, il y a une chose que j'aimerais souligner aujourd'hui. Il n'y a pas que le monde qui va subir le jugement de Dieu. Le christianisme, je devrais dire plutôt la chrétienté, va aussi faire l'objet du jugement de Dieu. Je voudrais m'expliquer. Vous savez, en Israël, il y avait des hommes fidèles qui marchaient avec Dieu, des personnes qui craignaient Dieu. Et j'aime beaucoup ce premier verset que nous avons lu, où il est dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. J'aimerais vous dire que même à l'heure actuelle, nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Car il y a un verset de l'Écriture qui dit ceci, « Nous serons jugés par les paroles qui sortent de notre bouche. » Nous ne prenons pas toujours conscience de cela. Alors, quand nous nous rencontrons les uns et les autres, et c'est une bonne chose, ne croyez pas, mes chers frères et sœurs, que je vais souligner ce matin le fait que nous ne devons pas passer du temps d'ensemble et qu'en dehors des réunions, il ne doit pas y avoir de relations, de contact les uns avec les autres. Ce serait un non-sens de parler de cette manière-là. C'est bien que des frères et des sœurs puissent se retrouver. Je dirais, c'est bien aussi qu'à la fin d'une réunion, je préfère d'ailleurs à la fin qu'au commencement, nous puissions prendre des nouvelles les uns des autres, que nous puissions nous pencher sur certains problèmes des uns et des autres, parler évidemment de tout ce qui nous concerne, peut-être même dans notre vie matérielle, professionnelle, tout cela, d'accord. Mais des fois nous nous retrouvons, nous nous rassemblons, et la question est, de quoi parlons-nous? Je vais vous dire, j'étais un enfant, et mes parents avaient des amis chrétiens. J'ai eu déjà l'occasion de vous dire que nous étions assez loin de lieux de culte et que c'était pour nous assez difficile d'entretenir une vie d'église, puisque nous étions à 80 kilomètres du lieu de culte le plus proche, et donc pour nous, le pasteur à la maison, eh bien, c'était papa. Mais quand nous allions quelquefois justement à ce lieu de culte, il y avait un couple qui nous recevait. Et moi, j'ai toujours, toujours été frappé, alors que je n'étais qu'un enfant, par l'attitude de cet homme dans ce foyer qui nous recevait et qui ne pouvait parler d'autre chose que du Seigneur. Et je me souviens, quand nous arrivions dans cette maison, même après le culte, il nous disait, avant même que nous nous mettions à table pour partager un repas, ou que nous allions commencer une conversation quelconque, il disait, la première chose que nous allons faire, c'est prendre conscience que le Seigneur est là. On va rendre grâce pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa présence. C'était pas une réunion. C'était juste un contact fraternel. Mais la première chose qu'il faisait, c'était, nous allons nous tourner vers le Seigneur et prendre conscience qu'il est là. Et moi, ça m'a marqué. Voyez-vous, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Et je dois vous dire combien de fois nous nous retrouvons pour parler de quoi? Qu'est-ce que c'est qui est le point, je dirais, principal de nos conversations? C'est vrai que nous pouvons parler d'autre chose, mais vous voyez, mes frères et sœurs, sans jamais oublier que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas uniquement présent quand nous sommes rassemblés dans le culte, dans une réunion quelconque. Tout à l'heure, je vais partir, et dans la voiture, il est avec moi. Il sera avec vous. Vous arrivez à la maison, il est là. Quand nous prenons conscience de sa présence d'une manière permanente, mais tout notre être entier adopte alors une position tout à fait différente. Et nous avons besoin de prendre conscience que finalement, la personne la plus importante, c'est toujours le Seigneur, et qu'il doit y avoir toujours, toujours, cette prise de conscience qu'il est là. Quand on n'honore pas le nom de l'Éternel, on sombre dans une certaine indifférence, dans des habitudes, et parfois même, on peut se laisser aller à des choses qui sont bien loin d'être agréable à notre Dieu. Et pourtant, Dieu est attentif. Et je pense d'un seul coup à ceci, mais mes paroles, toutes mes paroles, toutes sont conservées par mon Dieu. Et donc, toute ma conduite doit être réglée. Parce que finalement, nos paroles ne font qu'exprimer ce qui se trouve dans le fond de notre cœur. C'est le moyen que nous avons. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Or, ce qui arrivait à ce peuple-là, c'est que quand il parlait, c'était pour se plaindre. C'était pour gémir. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les chapitres précédents, mais nous avons eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, un mardi soir, de nous pencher sur le chapitre premier de ce même livre prophétique. Et Dieu leur reproche certaines choses. Et ils sont étonnés. Et pourtant, regardez au verset 13 du chapitre 3. Il est dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et quand Dieu parle de cette manière-là à ce peuple, eux répondent et disent, « Mais qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. » Arrêtons-nous ici un instant. Vous savez, mes frères et sœurs, bien souvent, nous sommes là intérieurement, sans peut-être même l'exprimer avec notre bouche, mais dans notre cœur, on dit, eh, mais oui, mais finalement, à quoi ça sert de servir Dieu fidèlement, parce que je le sers fidèlement. Puis voilà ce qui m'arrive. Allez, ne me dites pas que c'est pas vrai. Il y a ici des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, que je ne suis pas en train de juger ni condamner, parce que c'est aussi mon partage. Mais que de fois nous nous plaignons, et il semble que, parce que nous sommes chrétiens, eh bien, certaines choses ne devraient jamais nous arriver. Bien, lisez avec attention la parole de Dieu, l'Écriture, et vous allez voir que ce n'est pas parce que nous appartenons au Seigneur que nous serons obligatoirement épargnés de certaines choses. Dites-moi, mes frères et sœurs, tout à l'heure, notre frère qui a introduit ces moments, je parle avant même que le culte ne commence, il nous parlait de l'Ukraine et il nous parlait de ses frères et sœurs là-bas. Moi, je regarde quelques images à la télé et quand je vois les larmes couler des yeux, la grande souffrance qui est leur partage, dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que ces chrétiens d'Ukraine qui connaissent aujourd'hui une grande douleur, une grande souffrance, craignent Dieu moins que nous? C'est pas vrai. Et pourtant, eh bien, la souffrance ne leur est pas épargnée. Et il y en a peut-être plusieurs parmi eux qui, malgré ce qu'ils connaissent, ne cessent de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu. Qu'en voyez-vous, mes frères et sœurs? Même dans les jours où il y a des choses semblables, la Bible déclare que nous devons toujours, en toutes circonstances, rendre grâce à notre Dieu. Je sais que ça semble être une parole très dure, très difficile, mais en même temps, eh bien, Dieu, il regarde si nous le servons par intérêt, ou si nous le servons par amour. Si, par exemple, pour Job, le diable avait pu voir que Job le servait par intérêt, eh bien, le diable aurait certainement fait savoir à Dieu, tu vois, regarde. En fait, c'est l'accusation qu'il portait. Regarde Job. Et le diable dit, oui, mais tu sais, il te sert parce que tu le combles de bénédictions, tu lui accordes tout ce dont il veut, il vit dans l'abondance, eh bien, tout lui réussit, ben, c'est normal qu'il t'aime. Alors Dieu dit, ah oui, tu penses qu'il en est ainsi? Eh bien, prends tout ce qu'il a, prends-le. Et qu'est-ce qu'il a dit Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, j'aurais été terriblement blessé, offensé en tant que papa si mes enfants n'avaient manifesté de l'affection que lorsque ils pouvaient obtenir ou recevoir de notre part en tant que parents les choses qui leur convenaient, les choses qui, dans le fond, comblaient leur petite satisfaction personnelle sur le plan ou physique ou matériel. Que penseriez-vous d'un enfant qui dirait « Papa, je t'aime parce que tous les jours tu me donnes des bonbons. » Hein? Moi j'ai un frère ici qui me donne des bonbons chaque fois que j'arrive. Hein? Merci. Hein? Mais c'est pas parce qu'il me donne des bonbons que je l'aime. Hein? Vous comprenez? Et je sais que s'il me donne des bonbons, c'est pas simplement comme ça pour me faire plaisir. Mais laissons ça de côté. Vous avez compris ce que je veux dire. Voyez, mes frères et sœurs, si quelqu'un là dit « Mon enfant, il m'aime parce que je ne peux pas supporter qu'il ne puisse pas en voir. Je ne peux pas supporter qu'il pleure quand il fait un caprice. Eh bien, je vais lui donner des bonbons. » Eh bien, voyez-vous, moi, quand je faisais des caprices, mon père, il me donnait pas des bonbons, il me donnait quelques baffes. Mais ça ne m'a pas tué. Ça ne m'a pas tué. Et voyez-vous, Dieu agit de la même façon dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. soyons capables de rendre grâce à Dieu. Craindre Dieu, c'est pas seulement quand tout va bien. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Dieu parle de cette manière-là. Mais je reviens à ce fait. L'Église, je dirais, visible, pas la véritable Église qui, à mon sens, est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous savez que sous le terme, le vocable de chrétien, il y a toutes sortes de choses qui passent et qui n'honorent pas Dieu. Le monde dit c'est l'Église. Eh bien, moi j'aimerais vous dire, cette Église-là connaîtra aussi le jugement. Pourquoi est-ce que je déclare cela? Tournons-nous vers le Nouveau Testament et voyons par exemple dans l'évangile de Matthieu la parabole des vierges sages et des vierges folles. Elles avaient toutes les lampes et toutes étaient dans l'attente de l'époux. Elles étaient identiques, semblables. La seule différence, c'est que une partie, la moitié, avait l'huile et l'autre, non. Je voudrais ici insister encore une fois. Une lecture a été faite au commencement de ce culte. Et à un moment donné, il a été dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est la parole de Dieu. Ne pas avoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ne pas avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Surtout dans le sens où dans notre milieu, souvent, on monte ceci en exergue. La parole de Dieu est claire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, s'il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il y a une expérience qui peut venir par la suite, qui est ce revêtement de puissance pour être des témoins efficaces, d'accord. Mais souvent j'ai entendu, alors je vais utiliser le terme, des pentecôtistes, dire à d'autres personnes, « Ah, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, alors ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. » Mais quelle erreur! Jésus a dit, « Celui qui reçoit ma parole, nous viendrons faire notre demeure dans ce cœur. » Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est en toi. Si tu as abandonné ton péché au pied de la croix, si tu l'as reçu comme sauveur, si tu crois que le sang de Jésus t'a lavé, purifié de tout péché, l'Esprit de Dieu est en toi. Et ne laisse pas le diable t'accuser à ce niveau-là. Tu manques de force pour le témoignage, alors réclame ce que la Bible dit. Demande-lui d'être revêtu de cette puissance pour être capable aussi d'être un témoin efficace. Mais surtout, ne mettons pas, je dirais, le joug sur certaines personnes en les condamnant, transgressant l'Écriture et par des paroles qui ne correspondent pas à la vérité. Mais néanmoins, il y a en effet des personnes qui peuvent être là, qui prient comme les autres, parce qu'ils ont un langage chrétien, parce qu'ils ont des habitudes chrétiennes, ils se sont soumis à des routines chrétiennes, peut-être correspondantes à l'Église à laquelle ils appartiennent. Alors ils ont adopté tout cela, ils ont le vêtement extérieur, mais le cœur n'a pas été régénéré. Et c'est la raison pour laquelle, avez-vous remarqué, dans cette fameuse parabole, Jésus dira à celles qui, hélas, trop tard, sont allées acheter de l'huile, « Je ne vous connais pas. » Il n'y a pas que ce passage. Il y a aussi cet autre passage qui est mis en relief dans le fameux sermon sur la montagne de Jésus. Quand il dit clairement, mais écoutons bien ces paroles, il dit, attention, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Et il continue en disant, mais certains viendront vers moi et me diront, mais en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et avez-vous remarqué comment Jésus répond? Je ne vous ai jamais connu. Donc vous voyez bien, le monde sera jugé, mais la chrétienté sera jugée. Et nous, nous passerons devant le tribunal de Christ qui est bien différent du trône de Dieu, le grand trône blanc, où se présenteront tous les hommes, quels qu'ils soient, sans exception, au grand jour de l'Éternel. Mais nous, eh bien, utilisons cette parole comme un sérieux avertissement. Et disons-lui, Seigneur, débarrasse-moi de toute apparence, de toute forme de religiosité, de toute tradition humaine, que mon cœur brûle pour toi, qu'il soit entier pour toi. Parce que finalement, et c'est par là quand même que je terminerai, ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est l'amour que nous pouvons avoir pour lui. D'ailleurs, il y a eu un avertissement. Le prophète dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Israël n'a pas pris trop garde à ces paroles-là. Et, vous savez, quelques années plus tard, nous savons après que Jésus soit venu, et quelques années après, en l'an 70 de notre ère, il y a quand même eu un certain jugement, je dirais partiel, qui s'est réalisé, qui s'est accompli. Et la ville de Jérusalem a été envahie par les Romains, les murailles détruites, le temple aussi détruit. C'était le jugement de Dieu. Mais vous savez, nous devons prendre garde quand Dieu parle, parce que quand lui prononce quelque chose, c'est important que nous soyons attachés à sa parole pour veiller sur nos actes et conformer notre conduite à ce qu'il nous demande. Donc il y a eu des conséquences. La désobéissance a toujours des conséquences. Mais il termine le passage ici en disant, ça c'était une note positive, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera, écoutez bien ceci, le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. J'aimerais vous dire que la religion pratiquée par Israël à ce moment-là était marquée par le pharisaïsme, était marquée par justement une forme d'hypocrisie. Nous avons eu l'occasion, en méditant d'autres passages, qu'ils offraient à Dieu des bêtes qui n'étaient pas saines, des bêtes avec des défauts. Ils offraient à Dieu ce qu'ils ne voulaient pas pour eux, et Dieu en a fait le reproche. Et ici, eh bien, Dieu dit, je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Cette religion pharisaïque avait le mépris pour les enfants. Quand vous lisez l'Évangile, vous découvrez à un moment donné qu'il y a eu une sorte de révolte quand les enfants criaient, vous vous souvenez, Hosanna, ils se réjouissaient et les autres voulaient les empêcher, voulaient les faire taire. D'ailleurs, les mêmes disciples ont eu une attitude semblable, mais les pharisiens à plus forte raison. Vous savez comment Jésus a pris la défense? Et même, il est allé plus loin. Souvent, il a pris un enfant et il a dit, voilà le modèle, voilà l'exemple. La foi enfantine, la foi, je dirais, simple d'un enfant, il l'a présenté comme un modèle à ses propres disciples. Et évidemment, il a rejeté toute cette religiosité froide qui n'a pas de sens. Il l'a rejeté ouvertement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'ai constaté une chose. Mes frères et sœurs, les églises se divisent. Savez-vous pourquoi? À cause de certains conflits générationnels. Il y a, pardon d'utiliser cette expression, mais comme je le suis moi-même, alors je ne vais pas prendre des gants. Il y a les vieux qui disent « Ah, mais les jeunes avec leur musique !» C'est vrai qu'il y a une musique qui ne passe pas. Mais ils ont quand même aussi, évidemment, des attitudes qui sont peut-être différentes. Des fois, je me demande si certains vieux, entre guillemets, ne sont pas en révolte parce qu'eux n'ont pas eu la même liberté que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir. Attention, mes frères et sœurs, suivez bien ma pensée. Je ne suis pas en train de défendre ce qui n'est pas défendable. Mais je n'arrive pas à comprendre que par tradition, formalisme, eh bien, on puisse lutter, arrêter, freiner certains élans de la part de certains jeunes qui, pour autant, aiment Dieu de tout leur cœur. Mais je ne peux pas supporter non plus que certains jeunes soient méprisants à l'égard des cheveux blancs, méprisants à l'égard des anciens, car si aujourd'hui vous bénéficiez de certaines choses, même dans la vie spirituelle, c'est grâce à ces anciens. Il y en a qui m'ont précédé et qui ont été pour moi des canaux de bénédiction. Comment est-ce que je vais me révolter en rejetant ce qu'ils ont été? Mes frères et sœurs, l'action de l'Esprit de Dieu, c'est de ramener les pères vers les enfants et les enfants vers les pères. C'est-à-dire d'enlever ces choses qui séparent. Car en fait, quand il y a l'amour pour le Seigneur, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il y a bien des choses qui s'aplanissent. Et vous savez que bien souvent, c'est triste de voir dans l'Église cette différence entre les jeunes et les vieux, mais encore plus triste de voir les problèmes générationnels au sein des familles. Parce que c'est pas seulement l'Église qui peut être divisée, mais les familles qui peuvent être divisées par ce conflit de générations. Mes frères et sœurs, vous savez qui peut aplanir cela? L'Esprit de Dieu, symbolisé précisément par le prophète Élie. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. Ah, ben, je reviens en terminant à cela. Souvenez-vous, sur le mont de la Transfiguration, qui est apparu à côté de Jésus? Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il parlait avec Jésus. Que disait Moïse? Tout ce qui est symboliquement représenté au travers de la loi est accompli en toi, Jésus, Fils de Dieu. Que disait le prophète Élie? Tout ce que nous avons annoncé, tout ce que nous avons prophétisé, trouve sa concrétisation en toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi du haut du ciel, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Christ est la jonction. Christ est le point central. Christ doit être le point sur lequel nos yeux sont fixés. Et quand l'Esprit de Christ nous anime, alors permettez-moi de terminer avec ce verset qui dit qu'en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision est quelque chose, mais que ce qui a de la valeur, c'est la foi dans notre Seigneur Jésus. Et que le Seigneur plaise, que nous soyons les uns et les autres vraiment tellement attachés à lui, nos yeux fixés sur lui, que toutes les différences, je dirais, qui existent, eh bien, disparaissent. Jeunes et vieux doivent se réjouir ensemble, pas vrai? Et jeunes et vieux, nous pouvons louer le Seigneur. Jeunes et vieux, nous pouvons le servir avec un cœur plein d'allégresse. Et nous devons demander au Seigneur que sa grâce soit notre partage pour que rien ne puisse faire de la peine à notre Dieu, à notre Père, à notre Créateur. Que Dieu soit loué.